Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 113. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Ludovic Dujardin, qui est cofondateur de Petit Bambou, une communauté et un service mobile de méditation guidée, disponible en 7 langues pour 7 millions d'utilisateurs en 40 pays. Nous discutons avec Ludovic de son parcours, le succès important de Petit Bambou, comment éviter la bataille de l'esprit toujours plus, l'état d'avancement de la méditation. On explore également le nouveau livre écrit par Dominique Butet avec les illustrations par Marie Renaud, Mes premières méditations avec Petit Bambou, aux éditions Parablou. Une belle source d'inspiration. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré et plongeons alors dans cette nouvelle émission. Ludovic Dujardin, ça fait plaisir de te voir.
Eh bien, ça me fait beaucoup de plaisir aussi, Minter.
Alors, nous nous sommes rencontrés, il fut un temps, à peu près 7-8 ans. Je suis venu à Lille et tu as été intervenu dans une session qu'on faisait autour de la gestion de communauté. À l'époque, tu avais une toute petite communauté d'un million de personnes et depuis, ça fleurit. Donc, Ludovic, dans tes mots, comment tu te décrirais avec tes beaux projets de Petit Bambou?
Dans mes mots, je suis le cofondateur donc, d'un projet qui s'appelle Petit Bambou, qui est une application qui a pour idée de rendre accessible et facilement et le meilleur contenu de méditation possible au plus grand nombre. Donc avec mes mots, c'est ça, c'est mon activité professionnelle, c'est mon activité personnelle. Je me définis comme quelqu'un qui... Enfin, je me définis. Non, je ne me définis pas parce que c'est difficile de définir quelqu'un, mais voilà. J'aime beaucoup la musique, je suis musicien. Je suis passionné de jardinage aussi, et puis je suis l'heureux papa de deux enfants, et j'ai une magnifique femme qui partage ma vie.
C'est génial. Et tu as raison, pour moi, c'est tellement important de pouvoir rajouter ces éléments personnels dans son profil, identification. Il n'y a pas que le boulot, quoi. Enfin, même si ton boulot est toi.
Oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment, sur la part du personnel et la séparation qui se fait entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et je trouve qu'on a tendance à vouloir très cloisonner les deux en disant qu'on a une vie personnelle et une vie professionnelle. Et moi, j'aime bien dire qu'on n'a pas deux vies, on a une seule vie. Donc, j'ai une vie avec des aspects professionnels, des aspects personnels. Des fois, ça se mélange, des fois, il faut que ça soit séparé. Et j'aime bien réussir à réintégrer un peu tout ça. C'est pour ça que quand je me présente, j'aime bien dire les deux.
Tu me lances une perche, mon Dieu, car en fait, c'est le sujet principal de mon nouveau livre. Et comment faire et quelle est la part de soi-même qu'on doit garder privée, quelle est la part qu'on devrait amener dans un contexte professionnel et par ailleurs, l'impact du professionnel dans le personnel. C'est comme si ce mur, il n'y a pas de mur, c'est très fluide. Par exemple, niveau de sommeil, l'impact sur ta vie professionnelle.
Tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que moi, je m'inscris un peu en rébellion sur cette idée qu'il faut que tout soit séparé. Je trouve que c'est... je ne sais pas si c'est français ou c'est européen, mais on dit qu'il faut bien protéger les deux aspects. Et donc, du coup, les gens ont tendance à ériger ce mot, j'ai posé le même mot que toi, un mur entre les deux. Et je ne suis pas sûr que ça soit vraiment quelque chose qui soit bon pour nous en tant qu'être humain. Donc, j'aime bien, c'est des notions de fluidité. Quoi. Alors, par contre, évidemment, je me souviens, j'avais travaillé un peu aux États-Unis dans les années 2000, où là, il y avait la part du professionnel prenait vraiment tout le pas sur le personnel. C'est-à-dire qu'on travaillait jusqu'à 23h le soir. C'était l'ambiance start-up avec les pizzas et machin. Et donc, en fait, il n'y avait plus de vie personnelle. La vie professionnelle prenait le tout. Ce n'était pas bon non plus. Donc, je trouve qu'il faut qu'il y ait de la fluidité entre les deux. Et effectivement, il y a des aspects qui sont strictement professionnels et des aspects qui sont strictement personnels. Mais il y a quand même tout un milieu qui doit, je trouve, où on gagne beaucoup à ce qu'il y ait des frontières fluides entre les deux.
Est-ce que tu décris, en fait, pour moi, si je regarde les États-Unis, ce genre de comportement, c'est plutôt un comportement de start-upper, plutôt de Silicon Valley. Car beaucoup d'autres lieux, on va quitter le bureau à 5h01.
Oui, effectivement. Moi, j'habitais San Francisco, c'était Silicon Valley.
Oui, exactement. Et puis, par ailleurs... Tu as comme tu n'as que deux semaines de vacances, tu pars à 5h01. Car en fait, si tu es en France, t'as des dizaines de semaines, enfin je plaisante, de vacances. Oh, par rapport aux Américains, c'est pareil, mais juste fou.
Ouais.
C'est un peu normal que ça mange sur le temps de travail, enfin, et inversement.
Tu as tout à fait raison. Oui, et puis il n'y a pas une bonne culture et une mauvaise culture, en fait. Hein.
Non.
C'est de l'observation de culture et pour essayer
Absolument.
de retrouver pour soi quelle est la place juste, en fait. Donc je ne suis pas du tout en train de ni critiquer les Américains ni les Français.
Non,
C'est plus
non, non.
observer pour faire la synthèse, pour quelque chose, pour retrouver une formule qui soit un peu plus proche de mes propres aspirations.
Et en tout cas, en tout état de cause, il est question de trouver la culture qui te convient. Car
Exactement.
en fait, y a pas bon et bon et mauvais. Il faut trouver ce qui est dans ton courant. Et puis après, à charge de toi de trouver ton voyage.
Ah bah, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et moi, je vais peut-être réinsister quand même sur cette notion. J'aime pas le vie professionnelle et vie personnelle. On a une vie, on est nous. Moi, je suis Ludovic et j'ai une seule vie dans laquelle il y a un aspect professionnel, dans laquelle il y a un aspect personnel. Mais ce n'est pas du domaine de la vie professionnelle, c'est l'activité professionnelle dans ma vie et l'activité personnelle dans ma vie. Et
Absolument.
puis, je suis au milieu de tout ça. Voilà. Il faut trouver
Et
le bon.
je dois imaginer quand même que c'est essentiel dans ton approche, ce que tu as fait avec le petit bambou. Donc, on va parler de petit bambou. Enfin, je m'en souviens avec le petit sourire, le petit bambou, c'était un projet, enfin, déjà bien, tu as lancé en 2012, si je ne me souviens pas. Enfin, j'ai raison.
Oui, c'est ça. En fait, au début,
Et
c'était
tu
juste une
es.
communauté, par contre. Ouais.
Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. C'est une communauté. Tu as transféré ça sur le guided meditation, la méditation guidée,
Oui.
en français, en petit bambou. Et aujourd'hui, donc on est en 2021, tu as ce que je vois sur ton profil, 7 millions d'utilisateurs avec 6 langues et 17 employés. Parle-nous de ce trajet que tu as fait. Comment tu as choisi ces langues? Quel pays tu as voulu faire, pas faire, parce que le marché
Oui,
est quand même occupé, surtout l'anglais.
ouais, tout à fait. En fait, oui, Petit Bambou, c'est une histoire qui est assez singulière parce que ça n'a pas commencé comme étant un business. Ça a commencé comme étant un projet personnel de communauté où j'avais utilisé ça sur Facebook parce qu'à l'époque, je savais faire un peu de communauté Facebook
Je confirme.
pour pouvoir véhiculer des petites choses positives qui avaient vocation à remettre de la joie dans le quotidien. Et donc, cette communauté, elle a très, très bien fonctionné. Et c'est ensuite où c'est mon associé, parce qu'on est deux fondateurs dans Petit Bambou, qui est venu me voir en me disant, écoute, cette communauté, elle est super. Si on lui ajoutait de la méditation, ça serait encore mieux. Parce que la méditation va être quelque chose qui va permettre d'apprendre aux gens à focaliser leur attention, justement, sur la joie qu'ils sont en train de vivre en créant voilà. Donc, il y avait une adéquation entre la communauté et le monde de la méditation. Et donc, on a décidé d'en faire une société. Ce qui n'était pas le projet initial. Et donc, on a commencé comme ça. On a créé nos applications. On a recruté des instructeurs de méditation qui ont écrit des contenus pour nous parce qu'on ne voulait pas les écrire nous-mêmes parce qu'on n'était pas compétents, tout simplement. J'aime bien comparer Petit Bambou de temps en temps à des plateformes comme Spotify ou Deezer. C'est-à-dire que Spotify ou Deezer, ce n'est pas forcément des musiciens qui ont fait
Non.
cette plateforme. Les musiciens, c'est les Beatles, Metallica et les Rolling Stones, et ils diffusent ces contenus. Et ben nous, on est un peu pareil avec Petit Bambou, c'est-à-dire qu'on est les diffuseurs des contenus, passionnés de méditation, évidemment, pratiquant la méditation, pas forcément évidemment, mais évidemment dans notre cas. Et voilà. Et en fait, donc d'abord en français, parce qu'on est tous les deux français. Donc ça, c'était en 2015. Et en fait, le succès était très vite au rendez-vous. Succès au sens business, j'ai envie de dire. Presque de manière assez enfin, pas si surprenante que ça, mais c'était un peu plus fort que ce qu'on avait imaginé. Donc c'était une très bonne nouvelle.
C'est sûr.
Et donc du coup, on est très vite arrivé dans la rentabilité de notre société, la viabilité de notre société. On a pu embaucher, donc on est resté en français pendant 2 ans. Ensuite, on a décidé de s'internationaliser. On n'a pas commencé par l'anglais, effectivement, parce que le marché de l'anglais était très trusté par des sociétés américaines et on s'est dit, où ça va être compliqué, nous, avec nos petits bras, d'aller rentrer dans cette arène-là. Donc, on a commencé par l'allemand, ensuite, on a fait l'espagnol, puis l'anglais, parce que bon, c'est nécessaire de faire l'anglais, parce que tout le monde parle anglais, plus ou moins dans le monde. Et puis l'italien, et dernièrement, le néerlandais.
Et quand tu as commencé avec l'allemand, c'était parce que c'était le marché européen le plus grand, Tu as changé, ce n'est pas exactement le même nom, n'est-ce pas? Tu ouais, écris Rethel différemment.
Oui, Petit Bambou, c'est un nom qui est très, très français. Et on s'est dit, peut-être qu'en Allemagne, ça ne va pas fonctionner. Donc, on s'appelle Bambou, B-A-M-B-U, .de. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne décision. En tout cas, c'est la décision qu'on a prise à l'époque. Et oui, donc on a pris le marché allemand parce que, en fait, j'aimais bien ce marché parce que ça nous permet. Déjà, c'est un gros marché en Europe. Donc, il y a de l'enjeu. Et c'est un marché qui est assez concentré autour de l'Allemagne. C'est-à-dire que ce n'est pas comme l'espagnol où on parle de
espagnol. De différents espagnols, oui.
Ouais, exactement. Donc, on s'est dit comme ça, on va pouvoir se focaliser d'abord sur l'internationalisation de la solution technique, ce qui était un enjeu qui n'était pas si simple que ça.
Comprendre comment faire, quels exactement. Sont les leviers. Parce que là, tu avais une communauté française, francophone.
Ouais.
Alors là, tu te lances sur l'Allemagne. Tu n'as pas la même plateforme. Est-ce que ça doit être par l'SEO? Comment tu t'y prends, quoi? C'est ça les enjeux ou c'était plutôt, tu voulais savoir par ville, par pays? Comment tu t'imaginais de faire l'internationalisation?
Alors, on s'est dit que, pas trop par le SEO, parce qu'on s'est dit, on pense pas vraiment que les gens cherchent application de méditation sur les moteurs de recherche pour télécharger une application. Donc, on est plutôt passé par les instructeurs de méditation. Donc, on a voulu recruter des instructeurs de méditation natifs allemands qui, de toute façon, on avait besoin d'eux pour écrire le contenu. Mmh. Et on s'est dit, eux vont être les ambassadeurs. C'est eux qui vont faire la publicité, j'aime pas trop ce mot, mais qui vont parler de cette application Petit Bambou en Allemagne. Donc, on voulait une démarche qui soit, on appelle ça multilocale chez nous. Là. On veut, quand on est en Allemagne, on est local en Allemagne avec des instructeurs allemands. Alors évidemment, on a pris aussi une agence de presse pour essayer de faire parler un peu de nous.
Bien sûr.
A évidemment pris de tout ça. Mais vraiment, la démarche qui est un peu singulière, notamment par rapport à nos confrères américains, c'est que nous, on veut des instructeurs locaux qui parlent avec le bon accent, qui savent exactement la précision des mots et la sensibilité des mots qui sont utilisés dans les méditations, que ce soit les bons, quoi. Donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a fait. En Allemagne, avec un succès assez moyen, pour tout te dire. Ah. on n'a pas encore tout à fait trouvé la formule. Mais on a répliqué ça en Espagne et ça a très, très bien marché. En Italie, ça commence à marcher très, très bien. Et la Hollande, c'est très récent, mais les chiffres sont plutôt bons pour l'instant.
Alors, pour revenir, donc, quand tu as commencé, de mémoire, c'était ta voix sur Petit Bambou en français. C'est pas vrai?
Non, ça n'a jamais été ma voix.
Tu as une belle voix, ça aurait pu l'être. Non, tu avais donc un instructeur.
On a trouvé un instructeur, mais qui ne voulait pas que ça soit sa voix. Donc, le tout premier qui nous a fait confiance, il voulait écrire juste les textes. Et donc, on a cherché une voix, en fait. Hein. Ça n'a pas été si simple que ça. Et on a trouvé la voix de Mathilde, une fille qui a travaillé avec nous sur tous les débuts de Petit Bambou. Et qui est passionnée de méditation. On l'a rencontrée dans un séminaire de méditation et qui était actrice de théâtre aussi.
Ah oui.
Et donc, il y avait une façon de poser sa voix qui était...
Remarquable. On retrouve les chambres des poumons. Et...
Exactement. Et puis, comme elle était passionnée de méditation, elle avait aussi cette sensibilité sur où est-ce qu'on met l'emphase, où est-ce qu'on met les silences. Elle n'a pas eu besoin de la briefer sur ça. Elle était au moins aussi compétente que nous dès le départ.
J'imagine, donc la qualité de l'instructeur et sa voix est très important,
oui.
Mais ce que je comprends en dessous, je sous-entends, le réseau et la plateforme de ces personnes est aussi important dans un lancement dans un pays que tu ne connais pas.
Absolument, absolument. Donc il y a ça qui est important et il y a aussi là où en est le pays vis-à-vis de la méditation. Parce qu'il y a des pays où la méditation est très ancrée. Les États-Unis en sont un exemple. Je pense que l'Angleterre, la France aussi, c'est très fort. On a eu des figures un peu emblématiques qui ont parlé de méditation depuis très longtemps. Et donc, en fait, les Français, j'ai envie de dire, je parlais des Français, ils avaient envie de méditer, en fait. Ils avaient déjà acheté beaucoup de livres de méditation. Ils méditaient avec des CD qui étaient dans les bouquins. Donc, il y avait une espèce d'attente pour une solution simple, pratique, pour pouvoir faire ses méditations où on veut. Et c'est vrai que le téléphone, pour ça, le smartphone, c'est un très bon outil parce qu'il est dans notre poche. On peut méditer dans un abribus quand on attend son bus. On peut méditer dans une file d'attente. On peut méditer au bureau. On peut méditer un peu partout. Et dans d'autres pays, c'est plus difficile parce que peut-être que le pays a moins été sensibilisé à ces questions de méditation. Et donc, du coup, c'est là où les instructeurs sont très importants parce que c'est eux qui portent la voix de pourquoi la méditation, c'est quelque chose qui devient nécessaire, bon le mot est un peu fort, mais qui devient utile dans nos rythmes de vie actuels. Et c'est plus difficile pour nous de le faire parce que nous, on est parti pris. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on va dire aux gens que c'est bien de méditer vu que c'est ce qu'on fait. Mais les instructeurs ont peut-être plus de légitimité pour démocratiser, pour inviter les gens à méditer que nous.
Il y a moins le sens commercial derrière quand c'est l'instructeur, en fait. Il est plutôt prescripteur.
Absolument, absolument. Même si nous, on n'aime vraiment pas se dire commercial et c'est ce qui nous différencie beaucoup de nos confrères américains. Et ça s'explique par plein de choses, hein, parce qu'on n'a pas d'investisseurs qui nous demandent de la rentabilité, on est indépendant, donc en fait, on n'est pas dans... Souvent, je cite un titre de Led Zeppelin, tu veux, qui fait un titre qui s'appelle « The Battle of Evermore ». Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là, on n'est pas dans la bataille du toujours plus. On a passé tous les steps de développement de petits bambous qui nous permettent d'être complètement à l'aise, de pouvoir investir, de pouvoir vraiment faire notre métier le plus tranquillement possible, sans une quête du toujours plus. Donc, du coup, on essaye de ne pas être commercial. Mais on peut être perçu comme tel, même si notre intention n'est pas celle-là. Donc, c'est là où les prescripteurs, instructeurs de méditation sont plus légitimes que nous.
Alors, évidemment, comme j'aime beaucoup les langues, tu disais que tu cherches un instructeur qui n'est pas capable de parler dans la langue locale. Quand tu prends un Allemagne ou une Italie, est-ce que tu prends quelqu'un pour Napoli qui est différent de Milan? Est-ce que tu es dans ce genre de subtilité ou c'est quand même juste l'italien, l'espagnol pour l'Espagne, la castellano? Ou est-ce que tu as besoin d'apprendre un mexicain pour le Mexique? Comment tu divises ces langues et jusqu'à quel point faut-il être local?
Ouais, c'est une très bonne question. C'est une question sur laquelle on n'a pas encore trouvé l'équation qui fonctionne bien. Parce qu'effectivement, il y a plein de façons de parler des langues différentes. Et l'espagnol est un très bon exemple pour ça. C'est vrai que quand l'espagnol dit sud-américain n'est pas tout à fait le même que l'espagnol castillan. Et sans parler du catalan. Ok, j'ai rien dit. Écoute, on essaie de faire au mieux. En fait, notre façon de faire, c'est de travailler avec des instructeurs qui ont envie de travailler avec nous. Mmh. Et donc, du coup, s'il est très castillan, ben, on va travailler avec cette personne-là, mais on ne va pas se limiter à un instructeur par langue. Donc, on va travailler avec 5 ou 6 instructeurs par langue. Il n'y a pas un représentant de Petit Bambou en Allemagne ou un représentant de Petit Bambou en Espagne. Ils sont 5 ou 6 par pays, voire plus. Enfin, ce n'est vraiment pas limité. En France, on doit avoir 40 instructeurs, je pense, en tout, qui ont écrit pour nous. Donc, en fait, on surfe sur l'envie de se réunir autour de ce projet, de démocratiser la méditation. Et voilà. Et donc, mais on a eu des surprises. Hein. Par exemple, il y a un mot qui, en espagnol ou en sud-américain, ne se prononce pas du tout de la même façon et qui est un mot très important en méditation. C'est le mot « expiration », où on dit « expiration » en castillan et « expiration » Donc, il y a un « x » ou un « s ». Et en castillan, je crois que « expiration », ça veut dire « rendre son dernier souffle ». Ce qui n'est pas du tout la bonne idée. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de travailler avec plusieurs personnes pour comprendre ça. Oui, parce que si on dans une méditation, on dit « inspirez et rendez votre dernier souffle », ça ne va pas.
c'est bien différent. Quoique, quelque part, ça me fait penser que quand même, j'ai envie de dire tout ça, cette envie d'être présent, cette capacité à travers la méditation d'être présent, c'est, je le mets moi dans un contexte d'être face à sa mort. Et plus tu es capable d'embrasser, comme on dit en anglais, embrace, d'accepter la mort, plus tu vas être concentré sur le présent.
Je suis complètement d'accord avec toi, mais ceci étant dit, je n'ai pas envie de faire peur à tout le monde en disant que vous embrassez votre mort pour pouvoir méditer. Mais effectivement, c'est... Moi, j'aime bien cette notion de polarité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets comme ça. C'est pour être vivant, il faut accepter qu'on soit mortel. Sinon, on va faire des choix qui vont avoir tendance à vouloir repousser notre aspect mortel, alors qu'en fait, on l'est. Et on le voit bien dans cette période Covid. On parle beaucoup de sauver des vies. Et en fait, je trouve qu'on ne peut pas sauver une vie. C'est-à-dire qu'on peut la prolonger éventuellement, mais on ne peut pas sauver. En fait, on est juste mortel. C'est comme ça. Et donc, il y a une partie d'acceptation de cette polarité. Et on peut voir ça avec beaucoup de sujets, hein, entre la, je sais pas, des fois on est très énergique, mais il faut accepter aussi sa partie qui est un peu plus immobile pour vivre pleinement son énergie. Et donc, en fait, accepter les polarités qui sont en nous. Et la mort est notre propriété de mortel sur nous. Bah oui, elle est bien réelle. Il y a un moment, on va tous mourir, mais le plus tard possible, j'espère. Ouais. Pour pouvoir avoir vraiment du temps de profiter de notre vie et puis de mourir apaisé.
Oui, mais enfin, en
pendant
tout cas,
longtemps.
le fait est que c'est une fatalité, mais c'est pour ça que ça nous encouragerait d'être plus présents. Et cette
Absolument.
méditation est un outil extraordinaire pour le faire. Je le fais, enfin, je ne fais que 10 minutes par jour, mais je le
C'est
fais
bien.
depuis maintenant peut-être 5 ans. Tous les matins, moi, j'utilise une Nouvelle-Zélandaise qui s'appelle Monique Rhodes, qui est une musicienne également,
Génial.
qui a fait tourner avec Chuck Berry. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'aime. Et donc, je pratique ce que je fais. Donc, intéressant. Maintenant, je voudrais parler avec toi du marché, parce que où on en est? On est 2021, on est en plein pandémie. La notion, on a beaucoup d'enfants sur les bras, on a beaucoup de stress. J'imagine que c'est comme les podcasts et plein d'autres choses, en effervescence, le marché au total, mais je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles fibres de connaissances, parce qu'évidemment, il n'y a pas, j'imagine qu'il n'y a pas de chiffres parfaits pour nous expliquer le monde, mais comment ça se passe?
Alors, le marché, il était déjà très robuste avant le confinement. C'est-à-dire que c'est un marché qui est en forte croissance parce que les gens ont envie de prendre soin d'eux, hein, tout simplement. Et ça, c'est très vrai depuis 3-4 ans, dans tous les pays occidentaux, au moins. Le Covid a effectivement accéléré la croissance de ce marché très fortement en début d'année dernière. C'est-à-dire que là, vraiment, nous, on a vu sur la plateforme Petit Bambou, le mot qui me vient, c'est presque violent, parce que c'était trop fort. C'est-à-dire que, surtout
Les serveurs ont crashé.
Ouais, alors, ils n'ont pas crashé, mais heureusement que j'ai une bonne équipe.
Oui, exactement. Oui,
Ouais, parce qu'on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que ça marche, et on a eu très peur, parce que c'est monté très, très vite. Et effectivement, on n'est pas les seuls. Hein. Tous les gens qui diffusaient des médias sur Internet, y compris Netflix, ont eu peur à ce moment-là parce que il y avait trop de monde là-dessus. Et alors évidemment, ça s'explique par l'anxiété que les gens vivaient. Ça s'explique aussi par quelque chose qui est un peu plus positif, je trouve, c'est que au moment de ces premiers confinements, les gens ont retrouvé du temps. Alors pas tout le monde, hein, évidemment. Moi, j'en ai pas retrouvé, mais de manière générale, il y a pas mal de gens qui ont retrouvé du temps et surtout qui ont été bousculés dans leurs habitudes. Et donc, ce moment où on est bousculé dans nos habitudes et on a du temps, c'est un moment qui est très propice à inviter une nouvelle chose dans sa vie. Et donc, il y a pas mal de gens qui se sont probablement dit, la méditation, j'essaierai bien, mais là, avec mon rythme, ça va pas, et qui se sont dit, je retrouve un contexte maintenant où mes habitudes sont volées en éclats, où j'ai du temps, allons-y. Allons-y, mettons-nous à méditation. Donc il y a ça qui est un peu plus positif que vouloir régler son anxiété, je trouve, et qui est probablement plus connecté à l'esprit de ce qu'est la méditation. C'est-à-dire que la méditation, c'est pas là pour soigner quelque chose, c'est là pour embellir sa vie, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un des outils qui permet d'embellir sa vie ou comme tu dis, de se reconnecter au présent et donc de sentir qu'on est vivant. Et c'est cette beauté-là qui est sympa à revivre, en fait. Okay, donc je préfère dire ça plutôt que de je préfère m'expliquer ça comme ça plutôt que me dire tout le monde est stressé et tout le monde a cherché quelque chose pour se sauver.
Oui, tout à fait.
Alors oui, pour le marché,
Et
j'ai plein de trucs à te dire encore, hein, parce que enfin
oui,
euh,
vas-y,
je sais
vas-y.
pas
Oui,
si.
dis-moi, dis-moi.
Oui, alors le marché, en fait, le marché des applications de méditation, quand on a commencé, il n'y avait personne. Il y avait Headspace qui était là un tout petit peu avant nous. Calm n'existait pas, il n'y avait personne sur le marché français. Et c'est un marché qui, en 5 ans, a vu beaucoup d'acteurs arriver. Et voilà, et beaucoup d'argent injecté dans ce marché-là, et donc des lignes qui ont bougé. Donc effectivement, le marché est dominé par deux Américains, Calm et Headspace. Et le marché européen, le leader, c'est Petit Bambou. Donc on est ravis, on est content.
Yay. Bah, en
Yeah!
fait, parce que vous vous êtes concentré sur les langues et vous vous êtes
Exactement.
localisé, parce qu'en fait, l'américain, il n'a pas cette subtilité de. Enfin, évidemment, il y en a certains qui sont intelligents, mais cette compréhension de l'Europe et
Ouais, il y a
qu'il
ça.
y a une différence entre les Castillans et les Catalans. Enfin, il sait où est Napoli, il sait où est Firenze. Enfin, pour un américain, c'est un peu compliqué tout ça.
Exactement, exactement. Et puis la façon dont ça s'est organisé aux États-Unis, c'est que les Américains, c'est des entreprises qui ont beaucoup levé d'argent. Donc on parle de plusieurs centaines de millions pour les deux. Et ce qui fait qu'en fait, c'est donc très bien pour eux, mais c'est une conséquence qui est un peu compliquée, c'est que leur intention fondamentale a peut-être été un tout petit peu modifiée par une autre intention qui est, il faut absolument que je fasse de la rentabilité pour mes investisseurs, parce que les investisseurs, c'est pour ça qu'ils investissent. Oui. Enfin, ils peuvent raconter plein d'histoires, mais au final, leur ADN, c'est quand même ça.
Evermore.
Ouais. Et donc, du coup, Evermore, exactement. Et donc, ils sont arrivés dans des démarches qui sont un peu plus commerciales, là, pour le coup, que nous. Et c'est vrai que souvent, quand on me demande de... alors, évidemment, je suis parti pris. Quand on dit « Pourquoi choisirez-vous plutôt que Calm ou Headspace ?» Je dis « Allez voir les reviews sur le store. » Vous classez les reviews par ordre de récents, les plus récentes, puis vous voyez ce qui est dit, en fait. Et en fait, c'est très perceptible, je crois que sur... je n'ai pas cité parce que je n'ai pas envie de faire du bashing de mes confrères, mais bon, il y a une revue sur trois où il est marqué « arnaque ». Voilà, et parce que voilà, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Donc, le marché est en train de s'organiser entre des gens très commerciaux, des gens qui essayent de maintenir leur et on n'est pas les seuls, hein, des gens qui essayent de maintenir leur intention. Et voilà, puis ça fait un bazar dans lequel les gens vont se retrouver.
Je m'en souviens d'une discussion que j'ai eue avec mon cousin Fabrice Grinda, qui voulait faire de Craigslist, donc tu connais bien certainement, ouais, américain, une espèce de marché de troc, pour l'Europe. Alors que donc lui, il localisait, il rendait ça européen. Et donc, je me dis, des marchés comme le Tchéquie, la Macédonie, enfin, tous ces petits marchés, c'est juste impotable pour un Américain, car en fait, ouais, il va regarder ça, c'est la taille d'une ville à Idaho, entre guillemets. Enfin, je fais ça pour semblant. Et tandis que ça, c'est ta réalité. Et quand bien même, après, tu peux faire la localisation. Moi, ce qui m'intéressait après, c'est des pays comme la Russie, qui est quand même grand, et où je pense que le besoin, c'est peut-être un first world problem, la méditation. Mais peut-être ces marchés en ont besoin aussi, s'ils pouvaient dédier 10 minutes de leur journée dans un stress où beaucoup de monde n'a pas de pommes de terre sur leur assiette. Donc, ouais, payer pour un truc qui, ça, est-ce que c'est un luxe? Comment tu vois ça?
Comment je vois ça? C'est difficile. Pour moi, c'est de... En fait, je pense que les gens qui méditent finissent par se dire que c'est un besoin essentiel pour leur propre vie. Et je peux illustrer ça de plein de façons, hein, sur la qualité de présence qu'on a. Et je vais prendre une petite illustration. Permets-moi cette digression. Mais
vas-y.
Je suis à un âge où les gens ont des enfants qui ont entre 10 et 15 ans. Et tous mes amis, les gens que je fréquente, me disent « ils ont grandi trop vite ». Ils disent, c'est ça qu'ils disent en France. Je dis, mais en fait, ils n'ont pas grandi trop vite, parce que tes enfants, ils ont grandi d'un jour par jour. Par contre, tu peux avoir l'impression, si toi, tu n'étais pas présent, que tes enfants ont grandi trop vite.
Wow.
Mais mettre la responsabilité de ça sur la notion de temps ou sur la notion d'enfant, en disant que c'est eux qui ont grandi trop vite, je trouve ça assez malhonnête pour soi. Et donc, du coup, c'est pour ça, je reviens à en quoi c'est essentiel. C'est-à-dire que si c'est essentiel pour nous de voir nos enfants grandir un jour par jour et d'être vraiment présent avec eux, la méditation devient un besoin essentiel. Et en même temps, c'est vrai que quand on regarde la pyramide de Maslow, la méditation, elle n'est pas tout à fait au même niveau que la nourriture et le toit. Et donc ça, je le comprends bien. Je ne dis pas que la méditation, donc en ce sens, elle n'est pas vraiment essentielle. Donc évidemment que manger, se sentir en sécurité et être à l'abri, je veux dire des intempéries et tout ça, être au chaud, ce sont des besoins qui sont plus essentiels que la méditation. Mais la méditation arrive, à mon avis, pas très loin après. Et ceux qui méditent le comprennent très bien, mais c'est difficile de convaincre sur ce sujet. Donc, pour Petit Bambou, la notion de marché, on a regardé tous ces marchés de la Russie et tout ça. Et en fait, on essaye toujours de se connecter à notre propre intention. Si notre intention, c'est de faire Evermore, on regarde. Si notre intention, c'est vraiment d'aider les gens qui ont envie de méditer à avoir la meilleure solution possible, normalement, on y va. Donc, c'est comme ça qu'on arbitre nos décisions de est-ce qu'on y va ou pas. Plus, évidemment, un facteur de difficulté. Est-ce que c'est facile de trouver des instructeurs russes? Est-ce qu'on va réussir à s'entendre culturellement pour avoir le même projet ensemble? Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué avec un russe pour moi qu'avec un italien ou qu'avec un espagnol. Encore que peut-être que je me mets des barrières mentales qui sont pas bonnes, parce que peut-être que ça serait très simple.
Après, on est quand même des êtres politiques. Et on ne peut pas s'empêcher de penser aussi au contexte dans lequel ça s'inscrit, d'où il y a un autre marché qui est assez grand, qui s'appelle la Chine. Ça aurait pu être un autre marché qu'on peut en regarder, mais c'est archi compliqué avec les pare-feux, le Great China Wall et tout, et puis le contrôle, est-ce qu'on a envie de se mettre là-dedans?
Ouais, alors on a regardé ça aussi, et c'est vrai que c'est très compliqué d'y aller. Donc, est-ce qu'on est OK pour... cette complexité, c'est aussi une opportunité, parce que si on arrive à résoudre la complexité, eh ben, on prend un avantage sur ceux qui n'arrivent pas à résoudre la complexité. Bon, pour l'instant, on n'a pas réussi à résoudre en Chine. mais par contre, on est très bien accueillis en Inde, figure-toi. En Inde, donc en Inde, c'est le pays qui fait le deuxième plus grand nombre de téléchargements de petits bambous là, depuis 6 mois.
Ça se fait en anglais.
Ça se fait en anglais. Ouais. Et c'est un peu une surprise pour nous parce que on n'a pas mis d'effort marketing sur ça. On n'a pas fait de publicité en Inde. Et je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que Petit Bambou était très très bien accueilli par les Indiens. Et donc du coup, ils téléchargent massivement l'application, ils utilisent massivement l'application. Et on est ravis. On est ravis. Alors, en termes de chiffre d'affaires, ce n'est pas grand-chose parce qu'en fait, les Indiens ne payent pas la partie payante. Mais c'est tout à fait OK avec nous parce que notre
c'est partie de la mission.
Ouais, c'est partie de la mission, exactement.
Mmh. Et donc, du coup, c'est la preuve que c'est un grand pays et c'est en croissance. Et puis, je parle beaucoup avec les Indiens. La dernière fois que j'ai regardé, j'avais 11% de mes écouteurs dans mon podcast anglais qui étaient indiens. Donc, en fait, c'est plutôt une question de taille. Et puis, il y a quand même une grande partie d'anglophones qui sont très éduqués, qui sont à la recherche de ce qui se passe ailleurs. Et après, pour pouvoir payer, c'est autre chose. Je voulais parler, Ludovic, j'ai deux autres sujets. Celui-ci, c'est ta gestion de ton équipe. Car en fait, quand on parlait au tout début de croisement, enfin, le manque de parois entre le perso et le pro, et quand tu as un business comme tu as, il me semble que ça doit être quelque chose d'extraordinaire de travailler sur la méditation. C'est style, moi j'ai passé ma vie à vendre des shampoings. Donc, il fallait faire l'usine, il y avait un côté industriel, lourd, et le bien-être de l'employé était juste sympa, mais pas du tout premier regard. Pour toi, comment tu gères ton personnel de 17 personnes. J'aimerais aussi savoir quelle est la répartition de ces 17 personnes. C'est-à-dire, il y a des programmers, il y a des meditators, enfin, c'est quoi? Raconte-nous.
Alors, la deuxième partie de la question est plus facile. Alors, la répartition, il y a la moitié de l'équipe est technique. Donc, ce sont les gens qui s'occupent de programmer l'application, de programmer tout ce qui est derrière l'application, les serveurs, l'infrastructure et tout ça. Donc ça, c'est vraiment très technologique. Et il y a l'autre partie de l'équipe, et ce qu'on appelle chez nous marketing, mais ce n'est pas vraiment marketing, c'est il y a ceux qui s'occupent des relations avec les instructeurs, qui s'occupent parce qu'en fait, on n'a pas d'instructeur de méditation qui travaille chez Petit Bambou. Ça, c'est notre volonté. C'est de pas être, c'est de travailler avec des gens qui ont envie de travailler avec nous sur les sujets qui leur importent. C'est-à-dire, je parle des instructeurs. Donc, s'il y a un instructeur qui veut travailler sur le sujet du deuil, eh bien, très bien, on va accueillir ça, on va travailler sur le sujet du deuil avec lui. Mais c'est son énergie à lui qu'il vient ramener dans Petit Bambou. Et nous, on accueille l'énergie vraiment, évidemment, avec immensément de plaisir. Donc, on a des personnes qui gèrent les relations avec eux. On a un petit peu de personnes qui gèrent le service client de Petit Bambou. Parce qu'en fait, c'est la partie qui devient de plus en plus complexe au fur et à mesure qu'on grossit. Parce qu'évidemment, il y a toujours des gens qui tapent mal leur email ou qui ont le...
Ça ne marche pas. C'est la faute. Non, mais c'est peut-être la faute de iPhone et pas la faute
exactement.
De l'application,
etc. Mais de notre point de vue, en fait, ils ont un souci avec Petit Bambou, un souci technique avec Petit Bambou, même si le souci ne vient pas de nous, il faut qu'on leur trouve une solution. Donc, on est une équipe qui s'occupe de ça. Et puis ensuite, on a des responsables de pays, donc des responsables de gens qui s'occupent de tout ce qui se passe dans les relations presse avec les pays. Donc, on a une Espagnole, une Italienne, une Allemande et une Belge qui gère le Netherlands.
Et ces personnes sont basées dans les pays ou ils sont chez toi?
Non, elles sont chez moi. Alors, on a deux bureaux, on a un bureau Luxembourg et un bureau à Lille. Le bureau Luxembourg, c'est là où il y a tous les responsables pays, avec mon associé qui y est aussi. Et le bureau à Lille, c'est là où il y a le marketing et puis la technique. Donc, on est 12 ici et 5 au Luxembourg.
Et donc, raconte-moi les temps de méditation chez vous. Est-ce que vous avez des rituels que vous avez... Est-ce que ça fait partie intégrante ou tu fais un peu plus laisser les uns les autres faire comme ils veulent? Comment tu fais?
Alors, je laisse tout le monde faire comme il veut et on n'est pas obligé de méditer quand on travaille chez Petit Bambou. Parce que je n'ai pas envie de tout mélanger, justement. Je veux dire, quelqu'un qui programme très bien... n'a pas besoin d'être un méditant pour être heureux dans son métier chez Petit Bambou. Donc évidemment, on incite un petit peu à méditer quand même, parce que c'est quand même notre sujet, donc c'est mieux de savoir ce de quoi on parle, mais une partie de l'équipe ne fait jamais de méditation. On a un petit rituel, c'est à midi, on s'arrête de travailler et on médite 20 minutes. Enfin, ceux qui veulent méditent 20 minutes et on médite dans le bureau. Donc c'est rigolo parce qu'il y en a qui ne méditent pas et qui continuent à travailler. Donc on entend les petits bruits de souris. Alors, ils sont très gentils parce que du coup, ils parlent pas.
Quand ils respectent, voilà, quand même.
Ils respectent ouais. ça. Mais on médite dans la vraie vie du bureau. Et moi, j'aime bien ça parce que j'aime bien méditer des fois complètement isolé dans ma petite bulle, dans mon petit coin chez moi ou dans mon jardin en entendant les oiseaux et voilà. Mais j'aime bien méditer aussi au bureau parce que le bureau, c'est une partie réelle de ma vie. Et donc, entendre les petits bruits, entendre voilà, ce qui se passe dans les couloirs des gens qui passent et tout ça, et être en méditation et focaliser mon attention sur ce qui est présent dans mon bureau, j'aime beaucoup. Donc, on médite là. On invite aussi, on est dans un complexe où il y a plusieurs entreprises. Donc, on invite tous ceux des autres entreprises à venir méditer s'ils veulent. Pendant le Covid, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les gestes barrières, les distances et tout ça. Donc, du coup, on est beaucoup moins. Et puis, on perd un petit peu l'habitude parce que... Quand je suis tout seul, en fait, je passe mon tour sur la méditation de midi, voilà, pour méditer le soir à la maison. Mmh. Et donc c'est ça le rituel. Et tu parlais de comment je gère mon équipe tout à l'heure. Donc j'ai plutôt répondu sur comment c'était organisé. En fait, moi j'aime bien. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est authenticité. J'ai horreur de tous les livres de management, de tous les dogmes, de dire voilà comment il faut faire, voilà, voilà. En fait, je gère cette équipe comme je suis, donc avec mes forces, mon énergie, mes faiblesses, mes tristesses. Mais je suis assez transparent, en fait, dans la façon de gérer. Et je recrute des gens qui sont compatibles avec ça. C'est-à-dire que je pense que j'aurais quelqu'un qui aurait besoin d'un patron très charismatique, très autoritaire, qui donnerait des directions, serait très malheureux à côté de moi, en fait. Il trouverait que je ne suis pas assez, probablement pas assez dirigiste. Donc, en fait, j'embauche des gens qui sont... Voilà, les deux qualités, je trouve, quand j'embauche des gens, c'est je veux qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire qu'ils soient suffisamment compétents pour faire le boulot et qu'ils génèrent des interactions positives dans l'équipe. S'ils ont les deux choses, et générer des interactions positives dans l'équipe, pour moi, c'est très important. Parce que, de toute façon, comme on ne sait pas tout faire dans notre métier, parce que tout évolue tout le temps, si on génère des interactions positives, en fait, on va pouvoir se nourrir de l'énergie des autres qui vont nous expliquer des choses, et en fait, on va grandir tous ensemble. Et donc, cette notion d'interaction positive est très importante. Et puis, en soft skill, j'aime bien qu'ils soient doués pour la joie. Moi, j'aime bien les gens joyeux. J'aime bien voir des sourires le matin. J'aime bien être content de les retrouver. J'aime bien qu'ils soient contents de me retrouver. Et la joie, c'est pareil. C'est pas pour vivre dans un monde utopique. C'est la joie, si on arrive à focaliser son attention sur ce que c'est que la joie, en fait, ça nous génère énormément d'énergie pour la journée. C'est très, très bon pour la productivité professionnelle, même si c'est un gros mot, souvent en France. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, la joie, ça nous fait mieux travailler. Donc, ça nous fait rentrer chez nous aussi en plus grande joie. Donc, ça génère plein d'interactions positives partout. Donc, je veux des gens qui soient doués pour la joie, qui aiment bien rire, qui aiment bien arrêter de bosser pour dire, bah voilà, il est 4 heures, là, j'ai envie qu'on prenne une bière ensemble. Bah, ok. Bon, pas tous les jours, hein, parce que sinon on va grossir, mais j'aime bien ça. Voilà. C'est comme ça que je gère mon équipe.
C'est drôle que tu penses à grossir. Il y a d'autres qui diraient, oh, bah attends, perte de temps, putain.
Ah ouais, non, pas du tout.
Non, mais non, voilà, donc c'est
quand
mignon.
On discute du boulot, en fait. Et ouais. Donc, du coup, on discute de plein de choses sous un autre angle qui nous permettent de découvrir peut-être des dysfonctionnements ou de déminer des terrains qui seraient en train de se miner. Non, en fait, je pense que c'est très utile, au contraire.
J'adore ça.
C'est pas du tout une perte de temps.
Et de petite réflexion, c'est tu parlais de l'autonomie et ensuite la capacité de générer des éléments positifs avec l'équipe. Moi, j'ai envie de dire il y a un côté indépendance dans l'autonomie, mais interdépendance dans le côté de capacité de collaborer, parce que je ne suis pas capable de savoir tout, j'ai besoin de mes équipiers, et autant faire ça dans un bon esprit.
Absolument. Absolument. Et ça, c'est une alchimie qui n'est pas si facile que ça, hein, à trouver, parce que quand on embauche quelqu'un, c'est difficile de déceler ça. Et donc, du coup, ça, je crois que ma partie managériale, si je devais la définir, c'est être garant de cette énergie-là. Parce qu'en fait, ils sont tous beaucoup plus compétents que moi sur tous les sujets sur lesquels ils traitent. Donc, ma capacité, ma façon de manager, si je devais dire, voilà, mais encore une fois, ce n'est pas un mot qui m'est très familier. Mais c'est de garantir cette énergie et puis d'insuffler, de protéger toutes les zones qui sont très positives et d'insuffler du positif dans les zones qui sont peut-être un petit peu plus rugueuses pour que ça se fluidifie. Donc c'est le voilà, donc c'est comme ça que je gère, c'est comme ça que je gère. Mais je fais pas de revue annuelle, je fais pas de tout ça, je fais pas tout ce qui est marqué dans les livres de management, je fais rien de tout ça.
Mais en fait, le fait en plus d'être une société privée où c'est charge à toi, le niveau de Evermore entre guillemets, enfin croissance et rentabilité. Si tu te dis, je suis content avec ces 6 langues, ces 7 millions, bien sûr, tu veux faire plus, mais il n'y a pas le même acharnement pour aller faire encore de la croissance et pousser, stresser les gens qui est moteur de, tellement négatif.
Oui, et la battle for evermore, you cannot win it.
Non, bien sûr.
C'est impossible.
Un jour, il y a le côté de la colline.
Oui, et puis même, de toute façon, même si on arrive à l'objectif, on va se remettre un objectif plus haut. Donc, on se crée une frustration. C'est Evermore, c'est pas atteignable. On se crée une frustration qui est pas bonne. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition. C'est-à-dire que nous, on a une mission avec Petit Bambou qu'on essaye de bien affiner maintenant. Mais je pense que la mission, au-delà de diffuser de la méditation, c'est de réussir à mettre de l'équilibre dans des zones qui ont été déséquilibrées par la technologie. Je pense qu'on va parler des enfants après. C'est très visible avec les enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils se sont vus. La technologie a été un raz-de-marée sur eux, donc ils savent presque utiliser un iPad avant de savoir parler. Enfin, pas les miens, mais bon, encore que, c'est pas sûr. Et ça crée des déséquilibres, notamment au niveau de leur attention, et qui sont un peu, je trouve, ça devient un problème presque de société globale. Et notre intention, et je trouve que la méditation est un très très bon outil pour équilibrer ça. C'est-à-dire qu'on va pas, c'est pas possible d'enlever les téléphones des poches de tout le monde, c'est pas possible, ça marchera pas. Donc c'est lost battle, donc let's not fight it.
Mais par contre, ça aide parce que l'application est dedans quand même aussi.
Mais oui, mais justement, on trouve que c'est une bonne façon de réapprendre via le téléphone, qui est probablement une des sources de problèmes d'attention, de réapprendre son attention. En fait, c'est une espèce de, on essaye à notre mesure d'essayer de réconcilier ça, et voilà. Et donc du coup, donc là, on a beaucoup d'ambition. Et là, il y a un petit peu de vraiment. Le plus on fera ça, au plus on sera connecté à notre vraie intention, et au plus on sera content de l'œuvre qu'on a réalisée avec Petit Bambou. Mais ça se joue certainement pas en termes de marché ou de finance ou tout ça.
Oui. Enfin, c'est une très belle mission. Enfin,
ouais, merci.
Punaise de besoin. Donc, ton livre aux éditions Hachette, Marabout, si je le prononce bien, les premières méditations avec Petit Bambou, qui vient tout juste de sortir. Ouais. J'ai pu parcourir ton livre. Il est génial, car en fait, je me dis, il me fallait ce livre il y a, je sais pas, 20 ans, pour l'inscrire avec mes enfants, qui sont francophones aussi. Et en plus, quelque chose qui est fondamental dans ton livre, c'est que c'est écrit pour les adultes, mais c'est aussi bien pour les adultes, j'ai envie de dire. Parce que l'adulte, que ce soit enseignant ou parent, est là pour accompagner l'enfant dans la manière. Donc, je trouve que c'est très subtil, très bien fait. Pour toi, ce livre, comment mieux comprendre l'intérêt de la méditation pour l'enfant?
Oui, alors c'est vrai que notre intention avec ce livre, c'est de faciliter la pratique de la méditation pour les enfants. Donc c'est évidemment un livre qui est très vulgarisé, donc qu'on peut lire pour les enfants, les enfants à partir de 10 ans peuvent lire ce livre. Et effectivement, il est écrit aussi pour les adultes, parce qu'on ne voudrait pas que les adultes se disent « Tiens, mon enfant a des problèmes attentionnels, je vais le mettre à la méditation, ça va régler le souci ». On imagine que la façon la plus efficace de ramener cet équilibre dans ces troubles attentionnels, c'est que les parents se mettent à méditer, comprennent ce que c'est que la méditation, aient envie d'inviter leurs enfants, et une solution facile pour inviter leurs enfants à participer à ce mouvement, pour qu'en fait, ce soit un chemin commun. Et pas simplement, c'est le problème des enfants, j'aurais trouvé une solution, hop, prenez ça et démerdez-vous. Mmh. Et puis, après ça, dire que la méditation, ça ne marche pas, parce qu'évidemment, si on a cette attitude-là, la méditation, les enfants ne vont probablement pas la faire. Donc, c'est ça l'idée. Le livre est sorti. Ça a été écrit par une personne qui s'appelle Dominique Butet, qui est une des instructrices de Petit Bambou, qui avait écrit les programmes pour enfants sur Petit Bambou. Mmh. Et on a évidemment participé à la réalisation de ce livre, parce qu'on le co-signe. Mais c'est rendons quand même à elle, c'est elle l'auteur, l'autrice, je ne sais plus son dieu, l'auteur avec un E.
L'écrivain, ou est-ce que c'est l'écrivaine, j'en sais rien non plus. Enfin, c'est pas moi qui puisse...
C'est elle qui a écrit, comme voilà. Ça on n'a pas de...
Et tu as aussi une dessinatrice qui a fait des très jolis dessins.
Ouais, alors la dessinatrice, c'est la personne avec qui on travaille depuis le tout début sur Petit Bambou, donc c'est l'esprit des dessins de Petit Bambou. Et effectivement, donc on essaie de balayer tous les aspects de la méditation pour les enfants, donc la qualité de présence, sentir ses sensations physiques, l'observation des pensées, voilà. Et pour les parents qui connaissent pas la méditation et qui écouteraient, c'est vraiment, comprenez la méditation non pas comme une pratique issue de religieux qui ont été laïcisés et tout ça, mais un truc un peu ésotérique. On peut vraiment comprendre aussi la méditation comme étant un entraînement attentionnel. Donc, on apprend à focaliser son attention sur ce sur quoi on souhaite focaliser son attention. Et donc, soit on la focalise sur nos sensations physiques, ce qui est présent là, soit sur les pensées, soit sur nos émotions. Quand un enfant est triste, eh ben, il est triste. Voilà. Et ça va reconnaître cette émotion pour l'enfant, va lui permettre de mieux la gérer, ou mieux l'utiliser.
L'apprivoiser, quelque part. Ouais.
Oui, et puis j'aime bien aussi dire que les émotions sont utiles. C'est-à-dire que... La peur, ça a été utile parce que sinon on se serait tous fait bouffer quand on était dans le temps des cavernes si on n'avait pas peur et qu'on ne s'était pas protégé. Et la tristesse, bah, c'est peut-être une émotion qui est utile aussi parce que du coup on va aller recréer du lien pour se réconforter auprès de son papa ou sa maman quand on a un enfant, ou aller retrouver de l'énergie auprès des gens qu'on aime bien. Et donc en fait, l'émotion peut nous mettre en mouvement. Et j'aime bien cette notion d'utilité. Mmh. Donc de faire comprendre aux enfants que s'ils sont anxieux, bah, peut-être que cette anxiété elle peut être utilisée pour quelque chose. Pacifiante pour eux et qui donc du coup plutôt que de la combattre en disant il faut absolument que tu sois calme, il faut absolument que tu sois voilà, non, c'est juste simplement prends cette émotion, utilise-la pour quelque chose qui soit positif pour toi, et en fait on peut trouver
c'est-à-dire que tu mets l'émotion dans l'émotion.
Ouais, bah
c'est ça, n'est-ce pas? Et ce que j'ai vraiment apprécié, enfin mon regard en tant que parent, c'est cette notion quand les enfants voient les choses en noir et blanc. Leur manière au début est de voir des choses comme si c'est catastrophe. C'est mon meilleur ami, mon tout meilleur ami. Enfin, je n'aime pas. Enfin, il y a noir et blanc sur plein de choses. Et la manière que vous avez conçu ces méditations, enfin, pour moi, je l'ai vu comme très différent de la méditation que je fais moi. Car en fait, tu l'as vraiment adapté à la fois pour l'esprit de l'enfant. Et j'imagine combien c'est difficile d'être dans la tête d'un enfant, un gosse de 8 ans, pour écrire pour cette personne, parce que bon, bah, j'ai passé l'âge. Et aussi, tu accompagnes bien, c'est-à-dire que j'avais l'impression de bien sentir ce que je devais faire en tant que parent. Parle-moi de cet élément pédagogique, comment vous avez travaillé ça.
Alors, j'ai un peu de mal. Alors, déjà, merci beaucoup pour ce que tu dis, parce que c'est effectivement vraiment l'intention du livre. Donc, si toi tu l'as perçu comme ça, c'est que on est arrivé, on a bien fait notre, on a bien écrit.
En tout cas, c'est moi qui le dis, et j'ai envie de savoir que tout le monde devrait acheter les premières méditations avec Petit Bambou. Donc, je suis missionnaire là-dessus.
Ah bah c'est vraiment gentil. Merci beaucoup, Minter. Plein de gratitude pour ça. Comment on a écrit ? Alors écoute, c'est difficile pour moi de te répondre parce que c'est pas moi qui ai écrit, c'est Dominique Buté, donc. Et en fait, je crois qu'elle est passionnée de ça. Donc en fait, une partie de son travail, c'est s'intéresser à tout ça. Donc savoir ce qu'il y avait dans sa tête au moment où elle a écrit, c'est moi je peux peut-être le sentir parce que je médite aussi avec mes enfants, donc je vois bien. Je vois bien. J'imagine bien voir. L'idée, je pense que vraiment principale, c'était de vouloir, je veux dire un mot un peu fort, briser, casser cette notion de les parents les parents veulent trouver une solution pour leurs enfants. Voilà, on veut pas de ça. C'est pas les parents qui veulent trouver une solution pour les enfants, c'est les parents et les enfants vont se mettre à une pratique qui va embellir leur relation, embellir leur vie. Voilà. Et effectivement, quand tu parles de noir et blanc sur les enfants, ouais, mes enfants, ils sont pareils. Et en fait, on apprend la modération peut-être avec une certaine forme de maturité, encore que des fois on est un peu pareil nous aussi en tant qu'adultes. On a il suffit de voir je sais pas notre relation avec Trump par exemple. C'est difficile de modérer, mais peut-être que cette notion, enfin peut-être que c'est un contre-exemple qui est pas bon.
C'est pas un homme de modération.
Non, exactement. Et en même temps il y a une beauté là-dedans, c'est que la façon qu'ont les enfants de vivre entièrement, pleinement une émotion, elle est jolie, elle n'est pas à combattre. C'est-à-dire que je trouve que cette modération, si elle arrive, si elle arrive quand elle arrive, mais pendant qu'elle n'est pas là, eh ben elle n'est pas là, super. Ben, regardons ça, acceptons ça, vivons ça. Et effectivement, un amour fou d'un enfant de 3 ans pour son meilleur copain, c'est génial. C'est génial, plutôt que de dire, bah, tu sais, peut-être que tu vas découvrir qu'il n'est pas ci, qu'il n'est pas ça. Voilà. Ouais, laissons cette beauté de la pureté de la sensation jusqu'au bout, et puis laissons le temps faire avec la maturité que ça s'adoucisse. Mais moi, je trouve ça vraiment magnifique.
C'est les rationalisations des adultes, ça casse tellement, comme tu dis, brise presque. Mais voilà, donc nous arrivons au bout de notre truc. Moi, au tout début, tu as dit que tu adores le jardinage et tout au long de notre conversation, Ludovic, j'avais envie de dire que la méditation est un moyen formidable de cultiver son jardin, son jardin intime, c'est mettre les mains dans la boue de notre corps et de faire germer des pensées d'aujourd'hui, enfin, d'être tellement plus en phase, connecté avec soi-même, mais aussi avec la nature, l'air ambiant, les gens autour, et plus grand la communauté, etc. Donc, j'adore ta mission. Et puis, ta manière, évidemment, tu es autant, enfin pour moi, je le sens, tu es authentique par rapport à ta mission. Bien sûr, il faut faire du pognon. Enfin, je veux dire, celui qui n'arrive pas à insérer du pognon dedans, ben, il ne vit pas, enfin, parce que c'est ça notre réalité. On n'a pas besoin d'avoir une dogme là-dessus, et c'est tout un drame quand on est tellement dictatorial par rapport à la mission, qu'on n'arrive pas à faire de la rentabilité, ce qui est un problème pour plein d'entreprises qui sont un peu trop idéalistes. Ouais. Mais tu arrives à doser ça d'une manière qui est formidable, et je suis vraiment ravi de reconnecter avec toi.
Ouais, moi aussi. Tu vois, cette histoire d'argent, en fait, moi, ma vision, c'est que quand on est vraiment dans son œuvre et sa mission, l'argent arrive. Voilà. Et si l'œuvre et la mission, c'est de l'argent, en fait, ça finit par se déliter et en tout cas, ça ne génère pas du positif pour soi. Donc, en fait, focalisons-nous sur la mission, sur l'œuvre et en fait, attirons toutes les énergies qui vont bien autour de ça. Et l'argent, elle fait partie des énergies qui vont être attirées par ça. Et en fait, c'est vrai qu'on a de la chance avec Petit Bambou, c'est que ça s'est passé comme ça. Donc, en fait, on a passé des stades où l'argent n'est pas vraiment un souci. Donc, on peut se focaliser vraiment sur notre intention.
Et cette notion d'intention est tellement importante parce qu'il y a une expression qu'on peut tourner, je le dirais en anglais, mais parce que je ne le connais pas en français, « money goes where energy flows ». Mais malheureusement, il y en a plein qui pensent que « energy goes where money flows ». Il y a souvent l'expression « follow the money » parce que l'argent indique tout. Voilà, donc, mais cette intention originale qui en fait préforme et structure tout le reste, dans les équipes, comment les recruter. D'ailleurs, j'aurais voulu te poser ça, comment recruter des gens qui sont capables d'apporter cette autonomie et cet bel esprit positif tout au long. Moyennant quoi, peut-être il faudrait avoir un autre entretien quand tu continues à dominer et puis faire vivre la méditation pour les enfants et les adultes pour avoir ce moment précieux. Ludovic, comment est-ce que quelqu'un peut connecter avec toi le mieux, suivre ce que tu fais? Donne-nous des astuces pour, en tout cas, aller chercher le livre, évidemment, chercher l'air Petit Bambou pour méditer dans la journée.
Alors, la meilleure façon de connecter avec moi, c'est LinkedIn. C'est là où je lis tous les messages, évidemment. J'en ai beaucoup, donc ne m'en voulez pas si je ne réponds pas tout de suite. Parce que
le petit indice que je dis toujours, c'est marquez pourquoi vous voulez vous connecter. Pas simplement connecter, bouton connect, mais expliquer pourquoi et donner une raison pour laquelle Ludovic ait envie de vous dire oui et connecter avec vous.
Oui, exactement. Et puis, il y a beaucoup de monde qui me demande de discuter 20 ou 25 minutes avec moi sur leur projet, tout ça. Je ne peux pas dire oui à tout le monde parce que sinon, je ne travaille plus parce qu'il y a beaucoup. Donc, m'en voulez surtout pas, ceux qui se connectent. Je suis quand même joignable et puis je prends quand même du temps pour ça. L'autre façon pour connecter ce que je fais, si vous voulez suivre, je pense que je suis moins intéressant que mon projet. Donc, je pense, mettez-vous à Petit Bambou et voyez tout ce qui se passe sur Petit Bambou. Et inscrivez-vous, j'ai envie de dire, inscrivez-vous dans cette démarche, si je peux mettre, allez, je peux mettre une petite injonction, dans cette démarche d'équilibrer, c'est l'impact de la technologie ou l'impact de la surexposition aux sollicitations dans notre vie, et ben, engagez-vous là-dedans, via la méditation ou via quelque chose d'autre, pour qu'on retrouve un monde où on soit en harmonie avec tout ça.
Et pour le livre.
Et pour le livre, alors le livre, on peut l'acheter un peu partout. Normalement, dans les librairies, j'aime bien dire dans toutes les librairies, mais je crois qu'il n'est pas partout. Mais partout où je vais, je vois je prenais le train l'autre jour dans les relais, dans les gares et liées. Il doit être dans les librairies un peu partout. Et j'ai pas trop envie de vous parler de l'entreprise qui a le nom de forêt amazonienne, forêt sud-américaine. Merde, j'ai dit non. Je trouve qu'il vaut mieux aller acheter son livre chez un libraire qui aime autant les livres que les vendre, plutôt que chez des gens qui veulent juste les vendre. Donc j'ai quand même envie d'inciter ça. Mais ceci étant dit, il est disponible donc sur cette plateforme aussi.
Ouais, il est disponible en ligne. C'est comme oui. Ça. En étant auteur, je ne peux qu'être et puis quelqu'un qui adore lire un livre par semaine à peu près. Évidemment, j'apprécie Ludovic. Un grand plaisir de t'avoir. Bravo pour le succès que tu es en train de faire foisonner, faire croître de manière organique, sans avoir appel à cette Evermore Strategy. Et puis, bravo pour le livre, cette auteure, autrice et dessinatrice. Et voilà, plaisir de te suivre.
Un grand merci. Merci beaucoup pour ton invitation, Minter.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. Stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust is the reason, still I won't tell the lie. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, put me to the test. I'm a convinced man,
I'm ready, fire and arrest.
I'm a convinced man, in the arms of a woman.
Hello, this is Gary Chachot welcoming you to check out the French History Podcast. Our main show covers the history of France from the first humans until present. If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture, and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties, including 18th century pirates, revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today.